Canal Academy. Vous allez entendre la chronique économique et financière de Monsieur Jacques Delarosière de l'Académie des sciences morales et politiques.
Je vais vous parler aujourd'hui du défi de la politique monétaire actuelle. Vous savez que nous vivons à une époque où les taux d'intérêt sont très bas, où on a facilité par de la création monétaire très abondante les rouages du fonctionnement de l'économie. Et il faut savoir que avoir pendant très longtemps des taux d'intérêt proches de zéro, voire à zéro, ce qui est le cas en Europe, où la Banque Centrale Européenne a pris la décision il y a déjà quelques années d'avoir des taux d'intérêt zéro, il faut savoir que ça ne comporte pas que des avantages. Certes, on peut considérer que c'est avantageux d'être dans une situation où les taux d'intérêt ne coûtent rien. Mais il faut comprendre aussi que c'est un équilibre entre les épargnants d'une part et les investisseurs de l'autre qu'il faut respecter et qu'on ne peut pas toujours dénier aux épargnants la possibilité d'avoir un retour sur leurs épargnes. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'ils n'ont pas de retour sur leur épargne, puisque les taux d'intérêt directeurs, comme on dit, de la Banque Centrale Européenne sont à zéro. Alors on peut imaginer que pour répondre à un problème conjoncturel un peu immédiat, on puisse faire baisser les taux d'intérêt pendant quelques temps. Mais ce qu'il ne faut pas imaginer, c'est que l'on puisse vivre indéfiniment ou pour une très longue période dans une situation où les taux d'intérêt sont égaux à zéro. Pourquoi ? Parce que si les taux d'intérêt restent à zéro pendant assez longtemps, on a un certain nombre de conséquences négatives qui pèsent sur l'économie, la croissance et le plein emploi. La première conséquence, c'est que si vous avez des taux zéro, ça facilite la vie, si je puis dire, aux ministres des Finances intéressés, parce qu'ils peuvent emprunter sur le marché à taux zéro et même à taux négatif. Ce qui veut dire que pour acheter un titre du Trésor émis par le Trésor allemand ou français, il faut payer une sorte de taxe pour être autorisé à lui payer. Et cette situation, à la longue, provoque une réaction chez les épargnants qui peut être destructrice de la croissance. Et cette réaction, c'est « puisque je ne peux rien retirer de l'épargne que je mets dans un titre du Trésor, puisque même on me demande de payer de l'argent pour être autorisé à détenir ce titre, eh bien, je ne vais plus investir mon épargne dans des titres, quels qu'ils soient. Je vais la mettre sous mon matelas, cette épargne, et je vais la garder sous forme de liquidité. » Et c'est ce danger de la liquidité qui avait beaucoup frappé le grand économiste Keynes, qui disait « Attention, si vous baissez les taux d'intérêt, il ne faut pas y aller trop fort, parce que vous pouvez être dans une situation où finalement l'épargne va basculer de titres investis dans des projets à long terme qui servent l'économie à des montants purement de monnaie liquide, c'est-à-dire de billets ou de pièces. » Et donc, le premier danger, c'est la liquéfaction, si je puis dire, de l'épargne. Le deuxième danger, c'est que si ça ne coûte plus rien d'emprunter, les ministres des Finances ne vont plus être très incités à faire des réformes de structure pour réduire le montant de la dépense publique. Et donc on risque d'avoir une sorte d'engrenage fatal dans lequel la dépense publique continue de croître, puisque, en fait, ça ne coûte rien d'emprunter pour assurer le financement de cette dépense publique augmentée. Le troisième inconvénient, c'est que tous les systèmes d'épargne-retraite qui existent sont fondés sur un équilibre entre, d'une part, du côté du passif, du bilan de ces institutions, entre, d'une part, je dois payer des retraites à des gens qui m'ont confié leur épargne, et ces retraites sont fixées par voie contractuelle, et de l'autre côté, à l'actif de mon bilan, je dois détenir des actifs qui vont rapporter assez pour que je puisse honorer mes engagements à l'égard de mes retraités. Mais vous comprenez très bien que si, dans un système financier, les actifs fixes, les actifs qui sont en fait les titres d'État, ne rapportent plus rien, voire coûtent à détenir, l'équilibre entre le passif et l'actif du bilan, c'est-à-dire entre ce que je dois à mes retraités d'une part et ce que je peux gagner en plaçant ces investissements d'autre part, est rompu. Il y a un autre phénomène qui joue, c'est le phénomène des entreprises zombies. Et c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que les entreprises zombies ? Eh bien, ce sont des entreprises qui bénéficient du fait que les taux d'intérêt sont à zéro pour continuer à survivre. Elles peuvent être en très mauvais état, elles peuvent être peu ou non rentables, ces entreprises, mais elles continueront à flotter au fil de l'eau tant que les taux d'intérêt qu'elles ont à payer pour entretenir leur situation sont égaux à zéro. Et donc, ça pénalise les entreprises de meilleure qualité qui pourraient gagner des parts de marché normalement, mais qui ne le peuvent plus puisque les parts de marché sont prises par des concurrents qui bénéficient de cette situation de rente. Et donc, pour toutes ces raisons, il faut se méfier d'une politique monétaire qui est trop longtemps dirigée sur des taux d'intérêt égaux à zéro. Aujourd'hui, la politique monétaire est un peu à un carrefour. La politique monétaire voudrait que l'inflation, qui pour les banquiers centraux est souvent le signe d'une prospérité économique, alors que c'est très contestable, mais ils croient que c'est le signe d'une prospérité économique. Et ils voudraient que l'inflation soit suffisante pour les rassurer sur le degré de vigueur de l'économie. Et le quantum qu'ils ont mis à cette satisfaction d'une inflation suffisante, c'est 2% par an. Et 2% par an, c'est le taux d'inflation qui est retenu par les banquiers centraux, par la Fed aux États-Unis, par la BCE en Europe, par la Banque d'Angleterre, par la Banque du Japon, comme étant en quelque sorte le minimum inflationniste qu'il faut observer pour que l'économie fonctionne bien. Alors, le problème est le suivant. Pour un certain nombre de raisons fondamentales, l'inflation générale ne peut plus se situer à 2%. Pourquoi ? Parce que nos populations vieillissent. Et quand vous avez des sociétés qui vieillissent, elles ont moins de vigueur dans leur aptitude à croître. Elles ont des taux de productivité qui sont plus faibles. La pression sur les ressources est plus faible parce qu'on vieillit. Et il en résulte que tendanciellement, une inflation qui autrefois pouvait être considérée comme satisfaisante à 2% par an n'est plus possible à 2% par an. Elle est plutôt autour de 1%. Un deuxième facteur structurel, c'est que la mondialisation a fait pénétrer dans notre espace économique, à nous, pays dits développés, les exportations de pays émergents, et en particulier les exportations de la Chine. Or, ces exportations ont un contenu en valeur travail, en salaire, si vous voulez, qui est beaucoup plus faible que dans nos économies occidentales. Pourquoi ? Parce que en Chine, par exemple, le salaire minimum est à peu près le dixième de ce qu'il est en Europe. Et donc, les produits chinois sont ultra compétitifs parce que les salaires chinois qui sont incorporés dans les produits en question sont très faibles. Et il en résulte que l'arrivée de ces produits sur le marché baisse le prix de la concurrence, parce qu'il faut bien s'adapter, et que c'est un élément majeur dans la faiblesse des prix à la consommation. Il y a un troisième élément, en plus de l'âge de nos sociétés et de l'irruption des produits à faible salaire, du fait de la mondialisation, il y a un troisième facteur qui est le progrès technologique. Et le progrès technologique, sous les formes modernes de la digitalisation, est en train de réduire, comme il l'a fait d'ailleurs dans tout le passé de l'histoire économique, est en train de réduire la pression des prix. Pour toutes ces raisons, il se trouve que on n'arrive plus à des taux d'inflation de 2%. Mais, et c'est le point sur lequel je veux attirer votre attention, mais les banques centrales qui sont responsables de la politique monétaire continuent de dire 2% est le critère qui nous satisfait en matière de croissance économique. Et donc, tant qu'on n'est pas à 2%, on n'a pas rempli l'objectif qu'on s'était fixé en ce qui concerne l'inflation. Et il faut donc, en quelque sorte, cravacher, excusez-moi le mot, il faut cravacher pour que la politique monétaire arrive, qu'on le veuille ou non, à produire 2%. Et depuis quelques années, la politique suivie par la Banque centrale américaine, la Fed, et qui est copiée par la Banque centrale européenne, tend à s'époumoner, en quelque sorte, pour produire un taux d'inflation de 2%. Et elles n'y arrivent pas, ces banques centrales. Aujourd'hui, l'inflation moyenne dans les pays, que ce soit les États-Unis, l'Europe, le Japon ou la Grande-Bretagne, l'inflation est autour de 1,2, 1,5. Elle gravite autour de ces chiffres, mais elle n'arrive pas au chiffre sacro-saint de 2%. Et il en résulte que la politique monétaire de ces banques centrales est ultra généreuse et accommodante pour essayer, contre mans et varées, si je puis dire, pour essayer de remplir le critère de 2%. Alors cette situation commence à devenir dangereuse, parce que si on ne reconnaît pas que l'inflation normale, l'inflation d'équilibre, celle qui ne traduit ni hyperinflation ni déflation, et non plus de 2%, mais de 1 ou 1,5%, si on refuse d'admettre cette réalité qui est une réalité d'évidence, alors on est en quelque sorte forcé de cravacher pour essayer d'obtenir, quoi qu'il arrive, le chiffre magique de 2%. Et on est en train de commettre cette erreur. C'est une erreur parce que ceci conduit les banques centrales à un acharnement thérapeutique, si je peux me permettre l'expression, pour obtenir le chiffre de 2% d'inflation, qui conduit à des excès dans le domaine du système financier, qui conduit à une propension à emprunter qui devient maintenant incontrôlable. Cela conduit au phénomène que j'indiquais et qui concerne, si vous voulez, les entreprises zombies, le fait que le marché financier n'est plus un marché financier, c'est un marché qui est entièrement dominé par la faiblesse des taux de la Banque centrale, et les épargnants sont en quelque sorte pénalisés et ne peuvent plus bénéficier du fruit de leur épargne. Et donc il est grand temps que les banquiers centraux des États-Unis, du Japon, de l'Europe s'assoient calmement autour d'une table et comprennent que l'inflation normale, l'inflation d'équilibre, n'est plus 2%, mais est de l'ordre de 1 à 1,5%. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est quelque chose qui a l'air de, qui a l'air très technique, mais qui en réalité permettrait, si on le faisait, si on disait qu'on est satisfait avec une inflation autour de 1 à 1,5%, ça permettrait de normaliser la politique monétaire, d'éviter les excès que nous connaissons depuis quelques années et d'avoir une situation économique beaucoup plus stable. Alors, je crois qu'il faut prôner ce re-aggiornamento, cette possibilité de revoir l'objectif de 2%, en ayant et en profitant de cela pour demander à l'autorité monétaire centrale du monde, qui est le Fonds monétaire international, de jeter aussi un regard sur des aspects très importants de la situation qui, pour le moment, ne sont pas vraiment sous contrôle et qui sont la diversité des balances des paiements et les déséquilibres de balances des paiements d'une part, et d'autre part le danger de jouer avec les taux de change à travers la création monétaire. Toutes choses qui ne sont pas sous contrôle international et qui devraient l'être. Donc je réclame une sorte de pause dans la volonté des banques centrales de toujours réduire davantage les taux d'intérêt. Surtout que quand on est à zéro, c'est très difficile de réduire davantage, et de réfléchir un peu au bien fondé, si vous voulez, de ce qu'ils appellent une guidance, c'est-à-dire un guide, un indicateur qui est destiné à rassurer le public et qui en réalité le perturbe. Et donc, voilà, je voulais partager avec vous ces quelques pensées. Merci pour votre attention.